Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Cette émission Point de mire se propose de vous présenter l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir de recevoir dans le studio de Canal Académie Monsieur Jean Leclan, secrétaire perpétuel. Monsieur Leclan, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes membre de l'Académie depuis 1974 et vous en êtes le secrétaire perpétuel depuis 1983. Alors, pour nous éviter de compter, ça fait combien d'années ?
Ça fait 24 ans.
24
ça, ans. Ça va faire 24 ans au mois de juin.
Néanmoins, malgré l'appellation, le secrétaire perpétuel doit être élu, n'est-ce pas ? Il y a une réélection.
Voilà. Nous sommes élus, ça c'est le règlement. Mon règlement date du temps de Louis XIV. Nous appliquons toujours le même paragraphe qui disait « Il y aura un secrétaire perpétuel, virgule, il y aura un secrétaire qui sera perpétuel. » Voilà, l'appellation de secrétaire perpétuel vient de cette phrase. Il y aura un secrétaire qui sera perpétuel. Mais naturellement, si vous au cours du temps, on a pensé que peut-être, comme c'est une charge qui est fort lourde, il fallait à la fois s'assurer que le titulaire était vraiment content de faire cette profession et souhaitait poursuivre son œuvre, ou naturellement, éventuellement, mais le cas ne s'est jamais produit, ce secrétaire perpétuel ne convenait pas et c'était un moyen discret, si vous voulez.
Voilà, d'une possibilité.
Une possibilité, même à la suite, si c'était le cas, qu'il y ait des conversations préalables, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'affront fait, mais que c'était bon, ensuite, pour le perpétuel lui-même. Quand j'ai pris mes fonctions, j'ai beaucoup insisté là-dessus, par le fait qu'il faut que le perpétuel se sente quand même libre, qu'il ne soit pas engoncé pour la perpétuité, au-delà même l'éternité, finalement, dans ses fonctions, et que par conséquent, s'il se trouvait attiré par d'autres problèmes, parce qu'il y a une part de gestion très considérable, s'il avait de très gros travaux dont il pensait qu'il était urgent, qu'il mit un terme et par conséquent qu'il soit davantage libre, ça lui donnait toute liberté de dire « Écoutez, je viens de finir une étape dans ma carrière et voilà, je vous prierai de bien vouloir me choisir un successeur. Voilà, »
L'éternité, si monsieur Leclan, c'est une question que vous avez beaucoup abordée dans votre carrière, car vous êtes un égyptologue de renom et on sait combien la question de l'immortalité et de l'éternité a beaucoup compté dans la culture et la civilisation égyptienne. Vous avez dirigé de nombreuses missions archéologiques en Éthiopie, en Égypte et au Soudan. Mais aujourd'hui, c'est surtout de l'Académie des inscriptions que nous allons parler. Cette académie est née à quelle époque ? Vous l'avez dit sous...
Oui, naturellement, sous Louis XIV.
Sous Louis XIV.
Et en 1663. Comme vous le savez, dès 1635, Richelieu avait créé une académie, qui est l'Académie française. Et dans cette Académie française, qui avait des tâches diverses, il est apparu que le roi avait besoin de légendes, en particulier en latin, à la fois pour dédicaces de monuments, comme la Porte Saint-Martin ou la Porte Saint-Denis, qui sont célèbres des victoires, ou encore des médailles, des monnaies. Et que par conséquent, il fallait un petit noyau d'érudits. Et c'est pour ça qu'en 1663, Colbert a appelé autour de lui quelques érudits, pris dans l'Académie française d'ailleurs, mais des gens d'église en particulier, qui par conséquent avaient la pratique du latin, et leur a demandé de bien vouloir s'occuper des légendes, des inscriptions et des médailles. C'est le titre premier. Et elle ne portait d'ailleurs informellement pas de titre au début. On l'appelait donc la Petite Académie.
Ah oui.
Parce que c'était une délégation, si vous voulez, un groupe spécifié de l'Académie française qui était chargé de cette tâche. Et vous pensez bien qu'il y avait une préoccupation derrière, évidemment royale, puisqu'il s'agissait de commenter Nec Pluribus Impar, celui qui se distingue de tous, le roi soleil. Et que par conséquent, ce petit noyau de savants, d'érudits, devait se consacrer à la plus grande gloire du monarque qu'était Louis XIV. Voilà comment c'est né. Et petit à petit, naturellement, si vous voulez, ils étaient quatre au début, avec un secrétaire, cinq. Ils se sont agrégés d'autres membres, en particulier parmi les célèbres Racine et des Préaux,
oui,
c'est-à-dire Boileau, qui ont fait partie de notre académie. si on avait un petit groupe de 8, et que dans des organisations qui ont eu lieu à la fin, dans lesquelles un personnage dont on parle peu, mais qui a joué un rôle éminent dans la vie intellectuelle française pendant des années, c'est l'abbé Bignon. L'abbé Bignon, qui était lié naturellement aux grandes familles de l'époque, aux Pontchartrain en particulier, ont décidé de donner un statut plus rigoureux. On était régi donc par un statut de 1663, et ils ont à ce moment-là estimé qu'on a changé de titre, des inscriptions et médailles, et de là on est passé à inscriptions et belles-lettres.
Alors ça veut dire quoi, inscriptions et belles-lettres ?
Belles-lettres, belles-lettres c'est une expression que nous n'employons plus,
oui.
Mais qui dans la langue du XVIIe était d'usage courant. Elle signifiait, si vous voulez, les pratiques littéraires, même plus généralement intellectuelles, dans lesquelles il faut un peu d'érudition, même beaucoup d'érudition, et par conséquent, voyez-vous, c'était tout à fait spécifié. Les belles-lettres, c'est ce qui, naturellement, avec le développement des horizons, va petit à petit s'orienter vers l'érudition proprement dite et vers aussi une conception, si vous voulez, plus savante des pratiques. Et c'est comme ça que petit à petit, notre académie est devenue une académie de très fine érudition, ce qu'elle est restée à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'elle avait essentiellement comme champ de continuer à s'occuper des médailles. Il y avait un médailliste qui s'appelait Coypel, et le roi et son entourage soumettaient de temps en temps des demandes, une médaille pour la marine, une autre médaille pour tel ou tel commémoré, telle ou telle bataille par exemple. Par conséquent, il s'agissait de trouver à la fois un sujet pour la médaille et deuxièmement, il s'agissait aussi d'illustrer par un symbole, de la gravure et en même temps par une légende. Tout cela naturellement se faisant en latin. Et petit à petit, on s'est orienté, ça c'est les réformes qui ont lieu tout à fait aux premières années du XVIIIe siècle, on s'est orienté vers cette conception et le nombre des académiciens a été augmenté jusqu'à atteindre le nombre de 40.
Actuellement, vous êtes 40.
Nous sommes 45 en
45.
Fait. Même maintenant, nous avons réunit une catégorie qui s'appelait « membres libres », qui comptait surtout des provinciaux. Nous sommes donc, à l'heure actuelle, 55.
Et
je crois
qu'il
n'y a pas, pour nous, urgence de développer les choses. D'autres académies, au contraire, veulent vivre en expansion et avoir un nombre de membres croissant. Chez nous, si vous voulez, c'est l'excellence qui compte. C'est-à-dire que, sur les thèmes dont je vais vous parler dans un instant, nous essayons de choisir les meilleurs. Et s'il se trouve qu'il y en ait deux éminents dans une spécialité voisine, par exemple, nous avons eu pendant très longtemps deux turcologues, alors que le turc est une langue parmi d'autres, des langues orientales, qui nous intéresse. Ce qui compte, et inversement, il y a des domaines entiers qui n'ont pas de représentants chez nous.
Pour l'instant, oui.
Pour l'instant.
On attend l'érudit qu'on
pourra choisir. Et pour cela, on avait donc créé ces, finalement, 55 membres, mais aussi des correspondants, 50 correspondants, qui normalement étaient choisis surtout en province. Et ces correspondants, dans d'autres académies, il y a des correspondants, mais qui sont dans des tâches, disons, subalternes, secondaires. Tandis que chez nous, j'ai tenu à ce que les correspondants puissent avoir à peu près tous les mêmes droits que les membres. C'est-à-dire
ils jouent un rôle très important.
Ça me permet d'avoir une classe d'âge plus jeune,
mm-hmm.
et par conséquent, là-dedans, de choisir ceux qui, par leur assiduité, par leurs compétences, leurs publications, leur renom, petit à petit, seront dans l'horizon de devenir membres, voyez-vous.
C'est-à-dire qu'on peut passer de correspondant à membre.
On doit même, c'est souhaitable. Finalement, tout cela, vous savez, nous vivons beaucoup sur la tradition. Tradition d'ailleurs, étant historiographe de ma compagnie, je sais que la tradition change, hein, et change considérablement. Mais enfin, c'est quand même la tradition. Et par conséquent, la tradition est très, très importante et fait que maintenant, nous avons au début, il fallait que ce soit des provinciaux. Désormais, les provinciaux peuvent être membres et les correspondants simplement appartiennent à une classe d'âge plus jeune et par conséquent font un rajeunissement. Car il s'est passé, ce qui est le fait pour toutes les académies, que les académies, avec des membres qui sont des membres immortels, hein, notre légende d'ailleurs est suivante sur les pièces des jetons de présence pour l'immortalité. Par conséquent, sur l'immortalité, nous sommes des immortels. Mais malheureusement, les forces faiblissent. Enfin, et il faut songer.
Oui, puis la moyenne d'âge, en général, c'est
augmente,
beaucoup,
etc.
Augmenté, voilà.
Alors, dans ces conditions, nous avons pensé que certains disaient il faut penser à une retraite. Mais se posait le problème, on ne peut pas être deux sur le même fauteuil. Hein. Un fauteuil est
donc
un fauteuil.
Donc il n'y a pas de limite d'âge à l'Académie des inscriptions des belles lettres. On peut
pas.
Se présenter et être élu, quel que soit l'âge.
Justement, on ne se présente pas. Il faut que ce soit un des membres de l'Académie qui vous propose.
Ah d'accord, on ne se présente
pas. On ne se présente pas. Et même, et ça je crois que c'est peut-être un tort, il n'y a plus de visite. Mais il se trouve que ce sont des milieux...
Tout le monde connaît tout le monde.
Et par conséquent, si nous pensons à quelqu'un ou que d'autres y pensent pour nous et que nous ne connaissons pas, il est toujours facile de discrètement, très discrètement, de lui faire savoir qu'on serait ravis de faire sa connaissance. Et je dois dire que je n'ai encore jamais reçu de réponse négative à cette honorable proposition.
Alors, monsieur le secrétaire perpétuel, il y a aussi dans l'Académie un président et puis les membres fonctionnent par des commissions.
Oui.
Alors, comment est élu le président ?
Alors, c'est, si vous voulez, le président est annuel. Et il y a à son côté, le bureau comprend le président, un vice-président et le perpétuel. Alors, si vous voulez, c'est l'ordre honorifique, l'ordre hiérarchique de la maison. Il est évident que le perpétuel, restant en fonction, a une expérience plus grande que celle des membres qui vont être appelés à être d'abord vice-président et ensuite président. Comment procède-t-on ? J'ai naturellement devant moi la liste des membres et j'ai leur date d'entrée dans l'Académie. Et je suis cette liste. C'est-à-dire que la première personne à qui je pense, c'est celui qui se trouve dans le credo suivant. Alors à ce moment-là, généralement, je connais mon monde et je sais si ça intéresse ou non le candidat parce qu'il faut quand même, pendant 2 ans, être d'abord une année vice-président puis ensuite président. Donc ce 2 ans...
Pendant deux ans
où l'on doit se consacrer avec une tâche réelle, des responsabilités réelles. Et par conséquent, je sais que pour telle ou telle raison, tel confrère n'y tient pas, ou bien ne tient pas dans le temps qui vient, ou pour des raisons diverses, il préfère ne pas assumer cette responsabilité. Je passe alors à ce moment-là au suivant, et je m'enquiers s'il veut devenir vice-président. S'il répond positivement, il va donc être élu. C'est à la fin de l'année, à la dernière séance de l'année, il va être élu vice-président et le vice-président devient président. Voilà comment ça se fait. Un tour de rôle, c'est-à-dire naturellement que pendant la vice-présidence, il peut s'initier aux différents problèmes. Le bureau se réunit régulièrement, chaque semaine, et même entre les réunions qui sont habituelles chaque semaine. Si j'ai un problème, je téléphone à mon président et à mon vice-président, et tous les trois, car la décision est toujours une décision collégial, le bureau, ça s'appelle le bureau, propose à ses confrères telle ou telle décision.
Alors, monsieur Leclan, cette année, en 2007, qui est président et qui est vice-président ?
C'est en 2007, c'est monsieur le président et monsieur Bernard Potier. C'est un éminent linguiste qui a fait une très brillante carrière. Il est spécialiste en particulier des langues romanes, c'est-à-dire qu'en plus, l'étude de l'espagnol l'a amené à s'intéresser beaucoup à l'Amérique du Sud, si bien qu'il est aussi un très bon linguiste pour les langues indigènes, si j'ose dire, d'Afrique du Sud, le Tupi-Guarani ou
Aymara et autres langues incas.
Voilà. Et par conséquent, les spécialistes de linguistique générale, c'est un éminent savant. Et le vice-président est M. Jarige, le spécialiste de l'Extrême-Orient, de l'Inde en particulier, le directeur du musée Guimet, qui s'est fait connaître par des fouilles très importantes. Lui, c'était un homme de terrain à la base. Il a fait des fouilles très importantes et petit à petit, ses fonctions au musée Guimet ont fait qu'il est devenu le directeur prestigieux qui a organisé toutes ces magnifiques expositions récentes. Vous voyez, par conséquent, vous avez déjà une idée du champ d'ouverture de notre académie et des différentes spécialités, des différents domaines sur lesquels vont porter son action.
On va y revenir. Une dernière question, monsieur Leclan. Lorsqu'un membre a été élu, y a-t-il une réception sous la coupole solennelle pour et avec le discours où on fait l'éloge de son prédécesseur ?
Si vous voulez, voilà comment ça se passe. Des comités secrets, car tout ça se passe en comités secrets. Le comité secret étant la réunion des membres de l'Institut. C'est là où ne participent pas les correspondants. Mais les membres se réunissent donc en comité secret et un poste se trouve en vacant. Deux ou trois noms, si vous voulez, sont pressentis. On prend de façon à ce que je vais vous dire, il y a trois grandes tendances. Nous n'avons pas de sous-section. Hein, nous prenons toutes les décisions concernant l'Académie tout entière et j'insiste beaucoup là-dessus. Mais enfin, on choisit un orientaliste, un médiéviste et un spécialiste de l'Antiquité, si vous voulez, de façon à avoir une brochette de trois personnes. D'ailleurs, ça veut dire que pratiquement dans les années suivantes, ces trois passeront. Par conséquent, là, le choix déjà, si vous voulez, est un petit peu rigoureux. Et attendu que tout cela n'ait pas de candidature à proprement parler, l'on passe au vote et par conséquent, généralement, on s'arrange pour ne pas prendre de successeur dans la même, tendance, mais dans une autre. Et par conséquent, tout ça se passe entre nous dans un esprit d'amitié et de franchise totale. Donc il y a cette élection. À la suite de cette élection, le perpétuel en fait part au ministre de l'Éducation nationale, qui en fait part lui-même à la présidence de la République, car c'est par un décret du président de la République que nous sommes nommés membres de l'Institut. Mmh. Hein ? À ce moment-là, l'impétrant, si j'ose dire, c'est qu'il doit organiser son entrée parmi nous. Avec le perpétuel, il décide d'une journée où l'impétrant se présentera en habit, ses décorations pendantes, je sortirai, je lirai, le président lira le décret, et moi-même, je sortirai, il m'invitera à aller cueillir en quelque sorte. Je dis cueillir parce que je dois le prendre par la main, même par le petit doigt.
Ah bon ?
Et je le pousse devant moi, jusque devant le bureau, où le président lui indique qu'il a été élu, et lui remet une ampliation du décret, une médaille frappée à son nom, et l'invite à prendre part aux travaux en s'asseyant sur un siège, qu'il quittera d'ailleurs pour les séances d'après. Il se mettra par affinité à côté d'un ami. Ça, c'est le choix des séances.
Il n'y a pas un fauteuil attribué fixe.
Non. Ce sont des sièges qui sont indépendants les uns des autres. Donc, ensuite, généralement, le perpétuel offre une petite réception de façon à connaître la famille, les amis de l'impétrant. Et celui-ci fait se constituer un comité d'honneur. Le comité d'honneur qui comprend un certain nombre de membres de l'Institut, dans ses voisins, ceux qui l'ont fait élire, et ses amis. Et ce comité organise une cérémonie qui avait la cérémonie de la remise de l'épée. Dans cette cérémonie de la remise de l'épée, il y aura quatre ou cinq amis du nouvel académicien qui prononceraient des éloges. Le perpétuel, c'est généralement lui qui préside la séance, remettra l'épée qui aurait été naturellement constituée, enfin payée par le comité d'organisation, et lui remet solennellement cette épée. Alors voilà, ça ne se passe pas sous la coupole, mais à partir de ce moment-là, si vous voulez, entre-temps il s'est fait faire un habit d'académicien, hein, puisque nous avons droit à ce magnifique habit avec ses broderies. C'est une très belle broderie, très fine.
Broderie verte, car ce n'est pas la vie qui est vert, mais ce sont les broderies.
Ce sont les broderies qui sont vertes, vertes et or. Et il participera donc à la vie totale de l'Institut de France, c'est-à-dire le mardi le plus proche du 25 octobre. C'est la date qui commémore la fondation de l'Institut de France, par un décret, par le directoire. C'est l'acte constitutif du directoire, c'est l'entrée de la République. Et on prend cette date dans laquelle les cinq académies vont très solennellement pour la nouvelle année et qui sera marquée par des discours prononcés par un membre de chacune de ces cinq académies en présence naturellement de très hautes personnalités de l'État. Et ensuite, il y aura encore une autre cérémonie avec tenue d'académicien pour la rentrée solennelle de notre académie qui est fixée généralement dans le dernier vendredi, c'est toujours un vendredi.
C'est votre jour, le vendredi.
Le dernier vendredi du mois de novembre.
retour dans notre studio, toujours avec Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Monsieur le secrétaire perpétuel, on a un petit peu abordé le champ des disciplines couvertes par cette académie, mais peut-être faut-il les détailler encore. Vous nous avez dit la numismatique, l'épigraphie, la linguistique. Alors, évidemment, avec vous, on sait qu'il y a l'égyptologie.
L'orientalisme.
Quelles sont les autres disciplines ?
Bien voilà, en fonction de son histoire dont je vous ai donné les faits marquants du début, au XVIIIe siècle, notre académie est devenue vraiment un temple de l'érudition. Un temple européen, avec une très large audience. Et naturellement, les disciplines de l'érudition s'étant développées, d'abord dans le XVIIIe siècle, puis après, lorsque la réorganisation a eu lieu de l'Institut de France, par tout le développement de la science, qui vous savez bien, les progrès énormes qu'elle a accomplis au XIXe siècle. En fonction de cela, si vous voulez, petit à petit, dès le début du XVIIIe siècle, ces abbés érudits, qui étaient érudits dans le domaine des antiquités gréco-latines, et c'est toujours resté naturellement une des fortes, si j'ose dire, des fortes préoccupations de notre académie. Je dis bien, il n'y a pas de section, il n'y a pas une section antique et une section médiévale, une section orientaliste. Il y a naturellement des savants qui s'intéressent davantage à l'antiquité gréco-romaine. Ça, c'est une de nos composantes, en fonction même de notre histoire. Vous savez aussi comment, au XVIIIe siècle, se sont développées des querelles d'érudits extrêmement véhémentes entre ceux qui pensaient que c'était la tradition latine et d'autres, au contraire, pensaient que l'époque franque, l'époque mérovingienne, avait constitué un tournant décisif, et les querelles ont été très vives entre érudits sur les origines mêmes de la civilisation en Occident. Par conséquent, si vous voulez, nous avons une forte composante médiévale, et pendant longtemps, la limite avec l'Académie des sciences morales et politiques, fondée elle en 1832, depuis 1832, c'était environ, nos compétences allaient jusqu'à la fin de la Renaissance, si vous voyez, jusqu'au règne d'Henri IV. Puis ensuite, pour les périodes plus récentes, le relais était pris par l'Académie des sciences morales et politiques. D'ailleurs, les visées étaient différentes. Nous-mêmes, des visées surtout d'érudition, celles de l'Académie des sciences morales et politiques, de réflexion morale et politique. Mais cette limite est apparue ces dernières années un peu conventionnelle, car depuis 1832, si vous voulez, des choses avaient évolué.
Oui, il y avait
un siècle et demi. Voilà. Et par conséquent, les sciences morales et politiques ont décidé de prendre les choses à partir de la fin du XVIIIe siècle, demandant, car nous-mêmes, nous souhaitions défendre les humanités. Et j'ai toujours pensé que plus que la défense de l'enseignement du grec et du latin, qui est certes fondamental,
on ne va pas dire le contraire.
Mais, si vous voulez, ce qui est important, c'est notre tradition humaniste et classique. Songez tout notre théâtre du XVIIe siècle. Songez à tous ces grands auteurs pour lesquels les gens de genre à l'heure actuelle ne sont pas du tout préparés, car ils ne savent pas du tout qui est Britannicus, ils ne savent pas qui est Esther. Tout cela, c'est en dehors de leurs préoccupations. Nous, c'est au contraire. Nous devons, si vous voulez, tous ces fleurons de la culture humaniste, les défendre, les promouvoir, donc commencer par les étudier. Alors, comme vous le voyez, se sont donc dessinées une partie médiévale très importante qui, pendant tout le XIXe siècle, a reposé essentiellement sur l'école des Chartes. Le milieu de base, pour eux, était l'école des Chartes. Pour les antiquités classiques, le milieu de base était celui des grandes écoles d'Athènes et de Rome.
Oui, voilà, avec lesquelles vous avez encore des liens.
Nous avons des liens privilégiés, naturellement, que ce soit avec l'école des Chartes, que ce soit avec l'école française d'Athènes et l'école française de Rome. Et enfin, naturellement, dès le XVIIIe siècle, c'est ça qui est très intéressant, à partir du latin et du grec, les milieux biblistes ont voulu mieux connaître la Bible. C'est-à-dire qu'il fallait développer des études hébraïques qui rapidement se sont révélées devenir des études sémitiques. Et par conséquent, l'orientalisme est entré, car un certain nombre, par exemple au XVIIIe siècle, de gens ont pensé, disons, il y a l'écriture chinoise,
les textes
sanscrits,
oui.
Tout cela, se sont donc développés des érudits dans ces domaines-là. Si bien qu'au XIXe siècle, si vous voulez, toutes ces trois tendances ont pris leur essor, avec naturellement des disciplines plus spécialisées. 1822, c'est Champollion Comme vous savez, Champollion, ayant génialement découvert une clé pour entrer dans le système hiéroglyphique, a présenté le 22 septembre 1822. Il a traversé la rue, car il habitait rue Mazarine, est descendu de chez son frère, a pénétré à l'Académie, a prononcé la fameuse lettre à M. Dacier.
Absolument.
Alors c'est un monument extraordinaire. Et donc l'égyptologie est née. Ensuite se sont développées les recherches en Mésopotamie et sur les collines, sur les plateaux de l'Iran, ont développé des inscriptions en écriture cunéiforme. Par conséquent, voilà aussi un domaine qui s'est développé. Et aussi l'étude des textes bibliques, d'un point de vue purement scientifique, se sont développées.
Et aussi, je crois, parce qu'il me semble que l'abbé Breuil, par exemple, était un grand préhistorien, et Monsieur de Lumley, actuellement.
Et correspondant de notre académie. Voilà.
Donc la préhistoire également.
La préhistoire, et par exemple, nous avons vu compter deux fois déjà un africaniste parmi nous. Voyez-vous, nos curiosités s'étendent avec, si vous voulez, l'ouverture même sur les cultures autres que la nôtre. Par conséquent, tout cela est marqué quand même par une unité d'esprit qui est, si vous voulez, la recherche érudite. Voilà notre domaine.
Oui, c'est un critère vraiment fondamental,
ça, c'est un critère fondamental.
Vous l'avez dit, pour cette académie.
Nous avons naturellement des vulgarisateurs dans nos différents domaines qui ont du talent et dont nous reconnaissons le talent, mais nous leur demandons, pour entrer à l'Institut, d'être en même temps des érudits. Par conséquent, nous avons... L'un n'empêchant pas l'autre.
Alors, Monsieur Leclan, de toutes ces connaissances que l'Académie a pour mission de transmettre, de tous ces savoirs que ces érudits ont acquis, vous les transmettez comment? C'est-à-dire, vous les transmettez par des séances qui sont publiques, mais qui sont tout de même limitées à un nombre de personnes restreint.
Ça, ce sont les séances du vendredi
voilà,
après-midi.
Du vendredi après-midi. Est-ce que vous les transmettez aussi par des publications?
Oui, naturellement. Déjà, toutes ces séances du vendredi après-midi sont colligées, sont réunies dans ce qu'on appelle les comptes rendus de l'Académie, qui paraissent tous les 3 mois. Et songez que chacun des volumes, les 4 trimestres réunis, ça atteint 1500 pages, facilement, avec des illustrations abondantes. Et les comptes rendus de l'Académie, ce n'est pas une vanité personnelle, mais les comptes rendus de l'Académie sont universellement prisés, sont un modèle pour les grandes académies, les Lincei à Rome, la British Academy, l'Académie de Bruxelles, etc.
Toutes académies dont vous êtes membre, d'ailleurs.
Oui,
j'allais
dire presque naturellement. Oui. Naturellement, j'ai établi la liaison entre notre maison ici et de nombreuses autres institutions scientifiques. Et par conséquent, si vous voulez, il y a déjà les comptes rendus. Alors, nous avons d'autres publications spécifiques. Une revue qui paraît 2 fois par an, qui s'appelle le Journal des Savants. Le Journal des Savants fonctionne depuis le début du XVIIe siècle. Ils ont repris le flambeau et nous publions là-dedans des choses parallèles à nos communications. Nous avons aussi une autre publication prestigieuse qui s'appelle les Monuments Pio. Pio étant un philanthrope et cette fondation vit sur le lait qu'il avait fait et publie des articles, 3 ou 4 articles, par an, mais de haute érudition, parfaitement illustrée, là des domaines, tantôt une statue grecque, tantôt un monument indien, tantôt un texte du Moyen-Âge. Voyez-vous, voilà, ces monuments Pio, ce sont les principales publications, mais nous avons beaucoup d'autres, des collections anciennes, comme celle des historiens de la France, qui reprend l'étude depuis le XIIIe, XIVe siècle, des différents savants, des différents érudits qui sont consacrés à l'histoire de la France. Nous avons la collection des mémoires dans lesquelles un certain nombre de nos membres et de plus en plus récemment, étant donné les difficultés de publication que rencontrent des organismes comme le Centre national de la recherche scientifique, de plus en plus des savants, des jeunes savants dont les travaux sont remarqués, sont publiés dans les mémoires de notre académie.
Donc, votre académie soutient véritablement
la science. En fait, elle participe très étroitement. L'érudition. Nous sommes naturellement liés organiquement aux grands organismes de recherche, comme la recherche scientifique, ou encore la commission des fouilles françaises à l'étranger, du ministère des Affaires étrangères. En réalité, le secrétaire de cette institution, un secrétaire institutionnel des Affaires étrangères, a toujours été un membre de notre académie. J'ai été moi-même pendant 16 ans secrétaire général aux affaires étrangères et maintenant c'est M. Jarry, justement mon vice-président de cette année, qui en est le secrétaire général. Donc c'est, voyez-vous, une implication que nous voulons étroite dans notre académie, dans l'ensemble de la vie scientifique du pays.
Monsieur le secrétaire perpétuel, pour terminer notre entretien et cette présentation de votre académie, auriez-vous un témoignage personnel d'une histoire qui vous tient particulièrement à cœur, une anecdote à nous raconter?
Ben, j'en aurais
beaucoup, sûrement,
j'en
en 24 ans, je pense
qu'il y en a beaucoup. J'en aurais beaucoup. Et je dois dire que j'ai été très heureux de certaines présentations, par exemple, là récemment, on a donc découvert cet évangile de Judas.
Ah oui.
Eh bien, c'est le spécialiste, celui qui publiait ces textes, qui avait travaillé dessus 6 ans à en élaborer les arcanes, qui est venu nous le présenter. Le professeur Casser, c'est ça. Par conséquent, tout ça, ce sont des
grands moments pour vous.
Des très grands moments pour moi, que je vis avec intensité. Naturellement, je revis aussi le souvenir de mes prédécesseurs et le souvenir de mes confrères disparus. Nous leur rendons hommage 10 ans ou 20 ans après leur disparition. Une séance entière leur est consacrée et l'on fait le bilan de leur œuvre. Tout ça sont des moments que je vis très intensément, la préparation, puis ensuite l'exécution. Pour le reste, naturellement, ma vie scientifique était remplie de belles découvertes qui à chaque fois m'ont donné des joies majeures, comme lorsqu'à Carnac, j'ai ouvert la grande Favissa avec Robichon et Barguet, nous avons ouvert tous les trois une Favissa extraordinaire dans laquelle une 20aine de statues faisaient comprendre comment le temple puisait sa force, en quelque sorte, en enfouissant dans ses entrailles les restes des monuments précédents. Alors ça, ce sont de grandes joies.
Bien sûr. Encore,
quand allant en Nubie, dans le cadre des recherches faites sur l'engloutissement de la Nubie sous les eaux du haut barrage Nasser, du barrage d'Assouan, j'ai une petite barcasse s'est accostée. Il était environ 1h de l'après-midi. Nous avions pris le repas juste au moment de l'accostage, rapidement. J'ai mis les pieds sur le rivage et qu'au bout de 20 mètres, j'étais en tête, au bout de 20 mètres, je suis stoppé, car j'avais devant moi, illuminé par un soleil rasant, une fresque de 20 mètres de long de gravure rupestre sur laquelle il y avait des éléphants, des girafes disparus. Aussi, heureusement, quelques textes d'écriture difficile, c'était mon métier de les déchiffrer, d'en faire relever, de les déchiffrer. Alors ça, ce sont, si vous voulez, des images saisissantes que je conserve de ma vie d'archéologue, car mes fonctions ne m'ont pas empêché de temps en temps de quitter mes confrères pour aller sur le terrain même, me ressourcer aux sources vives, en particulier en Soudan, où j'ai élaboré le grand corpus des inscriptions méroïtiques, c'est-à-dire le millier de textes qui témoignent d'une situation désormais totalement évanouie.
On sent que la passion vous habite toujours, monsieur Leclan. Merci de nous avoir éclairés sur la composition et le fonctionnement de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Je voudrais seulement préciser que nos auditeurs peuvent trouver dans notre médiathèque plusieurs émissions avec vous. D'abord, une émission sur votre parcours, votre carrière personnelle en tant qu'égyptologue, une émission en habit vert, et plusieurs autres émissions sur l'égyptologie, une sur Champollion, entre autres. Toutes nos émissions sont en libre téléchargement et pour en savoir plus sur l'Académie des inscriptions et belles-lettres, vous pouvez consulter son site internet aibl.fr. C'est un site qui vous offrira de nombreux détails sur chacun des membres des académies, autant les membres actuels que les membres du passé. Merci et à bientôt. Thank you.